Radio Capi.
La grande édition du journal parlé, c'est tout de suite avec Lévin Mouinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. Mais d'abord les titres. Psychose et angoisse ce lundi matin à Bukavu. Et pour cause, il y a eu incursion de Wazalendo Mai Mai visant une position tenue par le M23 sur la colline de Karalé. Des tirs ont été entendus et la population est restée terrée à la maison. Du côté de l'Itouri, par contre, plusieurs camps de pêche sont vidés de leurs habitants. Cela suit toujours à la persistance de l'insécurité. Les FRDC ont délogé le groupe armé Zaïre des localités de Niamamba, Djo Egbi, après des combats à la plaine du lac Albert. Notre invité, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, va tout nous dire sur les échanges qu'il a eus avec les autorités de Beni lors de son séjour sur place. La ville de Bukavu s'est réveillée dans la psychose ce lundi 3 mars suite à l'incursion de Wazalendo Mai Mai visant une position tenue par le M23 sur la colline de Karalé dans la commune de Kadutu. Des tirs ont alerté toute la ville poussant la population à rester terrée à la maison. Le calme est revenu quelques heures plus tard mais les activités restent paralysées dans la ville. Le point avec Stanislas Duimi.
L'incursion est intervenue à l'aube contre la position de M23 sur la colline qui surplombe la partie ouest de la ville de Bukavu à Karalekan TV. Deux balles ont crépité durant quelques heures, témoignent des habitants du quartier. Ensuite, le Wazalendo Mai Mai se sont repliés. Pour l'instant, personne n'est à mesure de fournir le bilan. La circulation a repris, mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Les marchés n'ont pas été achalandés comme d'habitude. Les véhicules privés étaient moins visibles sur la route. Le nouveau maire récemment désigné par la rébellion a fait une déclaration dans laquelle il a minimisé ce qui s'est passé ce matin à Bukavu. Il a demandé à la population de vaquer à ses occupations.
Et puis, dans le cadre de la recherche de solutions dans cette crise qui secoue le Sud Kivu, la 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique, Philadelphie, à Bukavu, s'invite son pasteur responsable, exhorte les responsables du M23 à cesser avec des arrestations et autres abus contre la population. Pasteur Eugène Bougiriri l'a déclaré hier dimanche au cours d'un culte dominical auquel a pris part le numéro 1 du mouvement M23, Bertrand Bissimois et ses proches. Pour cet homme de Dieu, la ville de Bukavu et ses habitants ont besoin de la paix. Reportage Martial Kizabiamongo.
Dans son message de plus de 10 minutes devant des centaines de chrétiens, le pasteur responsable de la 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique commence par dire à Bertrand Bissimois que la ville de Bukavu a été remise aux mains de Dieu depuis 2023 pour dire non au bruit des armes. L'homme de Dieu, Eugène Bougiriri, rappelle au numéro 1 du M23 sous les applaudissements de chrétiens de Bukavu et couverte d'une grâce de Dieu, ce qui, selon lui, justifie l'entrée des rebelles dans cette ville sans enregistrer un bain de sang, mais pas parce que le FRDC qui y était n'était pas fort. Il implore la malédiction à tous ou ceux qui seront à la base des tueries de ces villes dans cette ville. Bougiriri renchérit, je cite, « Si vous êtes venus à Bukavu avec le sang des innocents dans vos mains, attention car ce sang vous suivra partout où vous irez. » Et d'ajouter, je cite, « Mon frère Bissimois, vous êtes mon petit frère, ta mère, fille, ma mère, faites passer les messages à la population que tous ceux dont les biens ont été volés par vos hommes, qu'ils se présentent chez vous pour une restitution. » Eugène Bougiriri demande l'implication de Bertrand Bissimois pour la libération de plusieurs personnes arrêtées par les M23 il y a plusieurs jours, dont le sort n'est pas connu jusque-là.
Pendant ce temps à Goma, les éléments du M23 qui occupent la ville poursuivent la traque des présumés militaires Wazalendo et FDLR dans les structures médicales et les quartiers. Après l'hôpital Elf Africa, ces rebelles ont mené une opération similaire la nuit dernière à l'hôpital Sebeka Ndosho de Goma. Au moins 112 personnes ont été emmenées par le M23 au cours de cette opération, renseignent plusieurs sources locales. Suivez ce reportage signé Martial Papimukeba.
D'après des témoignages donnés par des voisins de l'hôpital, les rebelles ont fait incursion au sein de l'hôpital CBC Andocho dans le quartier qui est Chéro vers 3h du matin. Ces derniers ont emmené une bonne centaine de personnes, notamment des gardes malades, mais aussi des malades guéris, affirmé plusieurs sources. Toutes ces personnes sont considérées par les M23 comme des militaires et Wazalendo qui se seraient cachés dans les hôpitaux. Nos sources affirment également ce matin qu'une dizaine de civils qui avaient été pris dans les lots ont été relâchés après vérification et commencent à regagner l'hôpital d'après certaines sources. Jusqu'ici, personne ne sait dire là où ces personnes ont été conduites dans un cas de formation ou bien ont-elles été arrêtées. Ce sont des questions que se pose la population de Goma. Celle-ci exprime une angoisse grandissante au regard de ces opérations menées par les rebelles du M23 dans la ville de Goma. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les responsables de l'hôpital CBC Andocho pour plus de détails.
Ça chauffe également du côté de l'Ituri où les FRDC ont délogé le groupe armé Zaïre des localités de Nyamamba, Djo et Gbi après des combats le week-end à la plaine du lac Albert à au moins 70 km au sud de Bounia. Selon des sources concordantes, plusieurs camps de pêche sont vidés de leurs habitants suite à la persistance de l'insécurité dans la zone. Les activités économiques sont également paralysées dans les grandes agglomérations, notamment au centre commercial de Tchomia. Isaac Remoyope pour les détails.
Des détonations d'armes sont attendues depuis samedi entre les miliciens des Zaïre et les FARDC vers le littoral du lac Albert dans les territoires de Djougou. Les miliciens ont résisté pendant 48 heures à l'assaut des FARDC qui ont reçu des renforts à provenance du secteur opérationnel à Bounia. Elles ont pilonné les positions des miliciens à Djo et Mbogi qui sont à débandade, affirment des sources de sécurité. D'autres assaillants de cette milice qui étaient concentrés à Nyamamba ont été délogés par l'armée. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Cependant, des sources locales de déplore les déplacements d'environ 90% d'habitants au centre commercial de Tchomia. Les activités économiques, boutiques, marchés, commerce des poissons, importation des marchandises sont suspendues. Plusieurs camps de pêche, Mbogi, Djo, Bui, Café, Nyamamba, Sabé, sont vidés de leurs occupants. La plupart de ces personnes ont trouvé refuge en Ouganda et d'autres à Kasenyi à 7 km de Tchomia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre actualité, 451 millions de dollars américains, c'est ce qu'ont coûté la présidence, la primature et le Parlement à l'État congolais au premier semestre 2024. Des chiffres publiés par la coalition Le Congo n'est pas à vendre dans un rapport parvenu ce lundi à Radio Okapi. Elle ajoute qu'à lui seul, le budget de la présidence a explosé les prévisions, atteignant 99% de son enveloppe annuelle en 6 mois. Le Congo n'est pas à vendre dénonce tous ces faits dans un document. Michel Kifindangoy.
Alors que le président de la République venait d'annoncer le 29 janvier dernier une série de mesures visant à réduire les trains de vie des institutions en guise d'efforts de guerre, le Congo n'est pas à vendre, estime que ces mesures semblent irréalisables. Dans son rapport, cette coalition réunissant ces associations congolaises et non congolaises engagées dans la lutte contre la corruption examine les inégalités sociales du personnel de l'État comparées aux institutions politiques. En guise d'exemple, elle dénonce le fait que les militaires, les policiers et les enseignants touchent moins de 100 dollars par mois alors que les députés nationaux touchent des émoluments et autres avantages exorbitants estimés à plusieurs milliers de dollars. Ce rapport présente aussi les écarts entre les fonds alloués au fonctionnement et intervention des institutions politiques par rapport aux investissements de l'État dans le secteur de la vie nationale. À titre illustratif, le Congo n'est pas à vendre révèle que les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 121% au premier trimestre 2024, alors que le financement des réformes et le fonctionnement des services déconcentrés n'ont pas connu de décaissement. Les dépenses en investissement sur ressources propres ont été exécutées à seulement 29%.
Le gouvernement assure la continuité des paiements en dépôt du contexte sécuritaire préoccupant. Le ministre des Finances réaffirme la détermination du gouvernement congolais à honorer ses obligations envers ceux qui, au péril de leur vie, défendent l'intégrité territoriale de la nation. Dans une dépêche parvenue ce matin à Radio Kapi, le ministre Doudou Fouamba affirme avoir débuté la paie du mois de février depuis le 19 février dernier et se poursuivra jusqu'au 5 mars prochain. Pour pour lui, malgré ce contexte où la République démocratique du Congo fait face à une agression extérieure menée par le Rwanda, la stabilité interne et le bon fonctionnement de l'État demeurent une priorité pour le gouvernement. Transport à présent, les habitants du district de la Tchangou, ici à Kinshasa, et vivant autour de l'aéroport international de Ndjili, éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre le centre-ville chaque jour. Ces difficultés sont dues aux embouteillages monstres régulièrement observés à la hauteur du quartier 1 sur le boulevard Lumumba, où la plupart des conducteurs effectuent des manœuvres le matin. Si certains considèrent le manque de régulation de circulation comme la principale cause de cette situation, d'autres l'attribuent à l'insuffisance des routes. Plotin Yambenga décrit la situation dans ce reportage.
Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait embouteillage entre les marchés de la Liberté et quartier 1, précisément à l'arrêt de bus Kimbuta. À partir de 6 heures déjà, la voie est bloquée, créant ainsi la désolation de ceux et celles qui se dirigent vers les centres-villes. Une heure, c'est le temps qu'il faut pour traverser cette tronçon et atteindre l'entrée Petro-Congo, long d'environ 1 km. Pour éviter les retards au travail, nombreux sont ceux qui choisissent de descendre des véhicules pour marcher. C'est notamment le cas de cette dame venue de Biboua.
Nous souffrons beaucoup en ce qui concerne le transport à Kinshasa. Quand nous empruntons les bus à Biboua pour quartier 1, nous sommes contraints de descendre à Bikai. Nous devons marcher. C'est pénible. Que les autorités trouvent une solution à cette situation de transport. Nos enfants qui étudient en souffrent également.
D'autres passagers pointent du doigt les agents de la police de circulation routière commis dans cette tronçon, estimant qu'ils ne font pas leur travail comme il se doit.
Les PCR ne font absolument rien. Ils sont là pour mendier auprès des chauffeurs pour avoir un petit rire.
Pour cet étudiant, il faut nécessairement construire des nouvelles routes pour régler la situation.
Comme moi, là, je suis d'abord étudiant. Je dois atteindre mon université, donc, mais jusqu'à présent, je pense bien, on est déjà à 9h. Je n'arrive pas toujours à atteindre mon université. On doit chercher à ranger, à mettre des routes.
Le boulevard Lumumba reste la seule voie qui permet à la population des coins de la capitale d'atteindre l'Imiti.
Direction Kindu à présent, poursuivons notre série de reportages sur la vaccination dans la province du Maniema, où l'opération se déroule avec succès malgré quelques difficultés nécessitant le soutien du gouvernement provincial et des partenaires. Grâce à des stratégies innovantes et des séances de sensibilisation, les parents amènent régulièrement leurs enfants aux différentes structures pour leur rendez-vous de vaccination. Reportage Florence Kizablunga.
Au centre de santé de la RVA 8e CEPAC, le rendez-vous des vaccins est pour chaque mardi et jeudi. Après une séance de causerie éducative expliquant aux parents les différents vaccins et leur rôle dans l'organisme de l'enfant, l'équipe procède à la vaccination. L'infirmière titulaire révèle ici comment ça se passe. Bembele Zabouze Bernadette.
L'opération de vaccination ici chez nous, ça se passe vraiment très bien avec les stratégies actuelles. Vraiment, les mamans adhèrent sans problème. Mais ce que nous demandons seulement, c'est la motivation parce que les prestataires qui quittent la structure pour aller vers les mamans pour récupérer ces enfants-là qui étaient auparavant non vaccinés, ça demande aussi des moyens de transport.
Cette femme rencontrée donne ses motivations en faisant vacciner son enfant. Berthe Amouri.
Je suis mère de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. C'est régulière en tant que femme intellectuelle. Je vois la volonté du gouvernement congolais qui alloue des montants colossaux pour que nos enfants soient vaccinés. Grandissent en bonne santé. À chaque rendez-vous, je dois répondre afin que mes enfants soient vaccinés pour qu'ils soient utiles dans la nation.
Selon les responsables de ces centres, par mois, ils organisent 31 séances. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Voilà, Florence Kizalunga l'a dit, selon les responsables de ce centre, ils organisent 31 séances de vaccination par mois.
Actualité internationale.
Les alliés européens se sont entretenus dimanche 2 mars à Londres et ont affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie. Paris et Londres ont par ailleurs proposé une trêve partielle d'un mois en Ukraine. Il s'agit d'une trêve dans les airs, sous les mers et concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques, a affirmé dans la soirée au journal Le Figaro le président français Emmanuel Macron, qui n'avait pas pris la parole publiquement à Londres.
L'invité.
Notre invité est le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix lors de son séjour à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Lacroix a rencontré les autorités locales, notamment le gouverneur de la province, pour réaffirmer le soutien de la MONUSCO en matière de sécurité et de protection des civils. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, revient sur ses échanges dans cet entretien avec Ghislaine Kassassia.
Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite en RDC à un moment critique. Vous avez rencontré les autorités congolaises alors que la situation sécuritaire se détériore avec l'avancée du M23 au nord Kivu et au sud Kivu. Quels ont été les principaux points abordés avec vos interlocuteurs lors de vos échanges?
Précisément, c'est l'importance fondamentale de mettre en œuvre la résolution 2773. C'est une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'il y a une forte convergence de tous les membres de la communauté internationale pour soutenir les principes d'un règlement de la situation à l'est du Congo. Maintenant, que faire pour que ça se matérialise? Alors, d'une part, les efforts diplomatiques, c'est-à-dire pousser de manière vigoureuse en utilisant tous les messages et tous ceux qui peuvent le faire pour que cessent d'abord les hostilités. Ensuite, que la MONUSCO se prépare, et elle le fait, pour à la fois se déployer pour mettre en œuvre la supervision du respect du cessez-le-feu lorsque le cessez-le-feu sera, nous l'espérons, mis en œuvre. D'autre part, continuer à faire le maximum pour protéger les civils et assurer l'ensemble du mandat. Certes, dans la zone occupée par le M23, il y a des restrictions, mais nous continuons à faire le travail de protection, notamment des personnes qui sont dans les bases de la MONUSCO. Et puis, pour le reste, en Ituri, dans une grande partie du Nord Kivu non occupée, un travail actif et proactif qui va être renforcé pour la protection civile et le soutien aux efforts des autorités du peuple congolais.
En évoquant la résolution 2773 exigeant les retraits du M23 des localités occupées et la fin du soutien du Rwanda à la rébellion, quel mécanisme l'ONU met-elle en place pour assurer son application effective?
Alors, c'est sûr, le retrait du M23, le retrait des forces du Rwanda sont partie des messages importants de la résolution 2773. Je rappelle que le retrait des forces armées rwandaises fait partie des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda. Et maintenant, tous les efforts diplomatiques, tous les signaux doivent être envoyés à ces protagonistes pour que l'offensive cesse et qu'on puisse passer à une phase de mise en œuvre d'un règlement pacifique.
Jean-Pierre Lacroix, plusieurs pays ont imposé des sanctions au Rwanda et à certaines personnalités impliquées dans les conflits. Quelle est la position des Nations Unies sur ces mesures?
Ces mesures, elles relèvent de la décision des États membres. Et elles ne relèvent pas des Nations Unies et encore moins du secrétariat des Nations Unies. Ce que nous disons, nous, c'est que tous les efforts doivent être faits pour mettre fin à cette offensive. Tous les signaux qui peuvent avoir un impact doivent être envoyés et que de notre côté, nous nous préparons. D'abord, nous contribuons aux efforts diplomatiques à tous les niveaux, y compris celui du secrétaire général qui s'est beaucoup engagé sur cette crise et qui continuera à le faire, et nous-mêmes, bien sûr. Et puis, comme je l'ai dit, aussi nous préparer à titre opérationnel pour que la MONUSCO soit prête à réagir très vite pour se déployer et assurer la supervision du respect du cessez-le-feu.
Quel rôle la MONUSCO peut-elle jouer pour favoriser la désescalade des tensions entre les parties en conflit?
Bon, d'abord, elle le fait au quotidien, puisque je le répète, qu'une bonne partie de la MONUSCO continue à mettre en œuvre la totalité du mandat dans une partie importante de l'est de la RDC, qu'il s'agisse de l'Ituri, où il y a encore des centaines de milliers de civils qui sont protégés tous les jours par la MONUSCO, dans un contexte qui est difficile et qui a vu récemment une escalade des tensions. Dans cette partie du Nord Kivu, avec à la fois une montée du M23 et aussi les activités des ADF qui restent très 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 graves en matière de conséquences humanitaires et de pertes en vies humaines. Et dans tous ces domaines, l'activité de la MONUSCO reste, et l'engagement de la MONUSCO reste total, et avec le redéploiement que j'ai évoqué tout à l'heure du QG de la force à Beni, cette action en matière de protection des civils, en matière de défense de la population face à toutes ces menaces va être encore renforcée.
comment envisagez-vous le retour à la paix dans la partie est de la RDC ainsi que la stabilité de la sous-région?
Eh bien, je l'ai dit, il y a une feuille de route qui est très claire, qui est la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Elle contient tous les éléments pour faire aboutir à un règlement pacifique. Maintenant, il s'agit, comme je l'ai dit, de tout faire pour qu'elle soit mise en œuvre. Et encore une fois, la détermination des Nations Unies dans la totalité de ses dimensions opérationnelles, diplomatiques, humanitaires et totales.
Et Jean-Pierre Lacroix, nous vous remercions.
Merci.
Voilà, ainsi se termine ce grand journal de midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Seboujangwe, Élisée Chikota et à Mimi Kindou. En attendant, restez toujours branchés sur Radio Kapi pour mieux vous informer. Excellente journée à tous.